Bien, mesdames et messieurs, bonjour. Je ne me présente pas, puisque je suis désormais imprésentable. Et de toute façon, l'essentiel est inscrit au tableau. En 1177, un siècle exactement avant le syllabus de l'évêque de Paris, Étienne Tempier, condamnant 219 propositions philosophiques et théologiques et les interdisant d'enseignement à l'université de Paris, en 1177 donc, l'abbé Gautier, prieur de l'abbaye de Saint-Victor, entreprend de s'attaquer aux quatre labyrinthes de la France. Pierre Abélard, Gilbert de la Porée, Pierre Lombard, Pierre de Poitiers, Contra Quatuor Labyrinthos Franciae. En fait, les labyrinthes sont cinq. Le cinquième est syrien. C'est Jean Damascène, mort en 749. Autrement dit, un grec. Magnus doctor grecorum et novorum hereticorum. Ce cinquième labyrinthe donne son sens et sa portée ultime au geste de Gautier. De fait, le très réactionnaire victorin cible, avec un flair d'une sûreté quasi médiumnique, tout ce qui, sur le terrain choisi, fait aujourd'hui pour nous l'intérêt du XIIe siècle. L'entrée, la seconde entrée, disons, de la théologie grecque en Occident, l'envol du genre sentencière, l'essor de la théologie dialectique et, structurant le tout, le conflit, la confrontation du cloître et de l'école. Le monstre caché dans le labyrinthe, le Minotaure, ou plutôt le Minocentaure, selon un mot hérité de Bède, la différence entre le Minotaure et le Minocentaure, l'expert en cryptozoologie que je suis éclairé immédiatement, c'est que le Minotaure est un homme à tête de taureau, tandis que le Minocentaure est un taureau à tête d'homme, plus aisément reconnaissable sur le plan de l'identité judiciaire. Donc le monstre caché dans le labyrinthe, le Minotaure, ou plutôt le Minocentaure, c'est la fausse trinité des nouveaux hérétiques et leur Christ imaginaire, Christus Fantasticus. La cible principale de Gautier est Pierre Lombard et, à travers lui seulement, Jean Damascène. L'exposition exacte de la foi orthodoxe, Ecdosi sacribestes orthodoxu pisteos, qui circule aujourd'hui sous le titre abrégé De Fide Orthodoxa, a connu deux traductions au XIIe siècle. Une partielle par Serbanus en Hongrie avant 1145, une complète en 1153-1154 par Bourgoin de Pise, Burgundio de Pise, mort en 1193, la Versio Burgundionis, la plus utilisée au Moyen-Âge, commandée au grand traducteur pisan par le pape Eugène III lui-même, selon ce qu'indique, ou comme en témoigne, si vous préférez, l'incipit du manuscrit, d'un des manuscrits de la Versio Burgundionis, qui est édité par Boitart. De Jean, prêtre de Damas, commence le livre appelé Mansour, qui, la traduction étant discutable, qui donne la tradition établie de la foi orthodoxe, divisée en 100 chapitres, qui a été traduit du grec au latin par Burgundio, juge de la cité de Pise, à la demande du seigneur Eugène III, pape de bienheureuse mémoire. La version originale de l'Ectosis, donc, est divisée en 100 chapitres. La division en 4 livres de l'édition reproduite dans le tome 14 de la Pratrologie grecque ne figure pas dans la traduction de Burgundio, pas plus que dans l'original. Elle a été introduite en 1712 par Michel Léquien. Ce n'est pas non plus celle qu'ont connue les scolastiques, dont la quadripartition s'est imposée à partir du XIIIe siècle pour tout le Moyen-Âge tardif, avec l'introduction du découpage de la Versio Burgundionis par Philippe le Chancelier, dont il était question hier, au moment de notre séquence musicale et musicologique. Donc un découpage en quatre sections sur le modèle assumé des quatre livres des sentences de Pierre Lombard. La chose vaut d'être notée, l'ordre latin des sentences est venu structurer après coup l'original grec. Ce feedback des sentenciers sur l'exposition des fidei orthodoxa, facteur ajouté de systématicité, est d'autant plus remarquable que ni Serbanus, le premier traducteur, ni Pierre Lombard, le premier utilisateur, ne traduisent pour l'un, ne cite ou n'allègue pour l'autre, de passages extérieurs au chapitre 45-52 des 100 chapitres. Autrement dit, les chapitres 1 à 8 du troisième livre dans la division quadripartite de Philippe le Chancelier. C'est dans ces 8 chapitres qu'est tapis le Minotaure syrien. Ce sont eux exclusivement qui constituent le cinquième labyrinthe de Gautier de Saint-Victor. Pierre Lombard a commencé sa lecture de Jean de Damas en utilisant la traduction de Serbanus, qu'il a corrigée ou remplacée lors d'un voyage à Rome par celle de Burgundio. Sur le temps long, la traduction de Burgundio, complétée au XIIIe siècle par celle de la Dialectica due à Robert de Lincoln, lui-même auteur d'une révision de la Versio Burgundionis, a, j'y faisais brièvement allusion hier, enclenché un processus dont l'un des effets majeurs a été l'achèvement du tournant christologique de l'anthropologie entamé par les pères grecs. Je n'y reviens pas. Ce qui nous intéresse ce matin n'est pas la fortune de Jean de Damas sur le long terme, mais d'une part la résistance qu'il rencontre à la fin des années 1170, en l'occurrence le traitement que lui réserve Gautier de Saint-Victor, et d'autre part, ce que ses premiers lecteurs bienveillants, au premier rang desquels Pierre Lombard, ont quelques années plus tôt tiré de lui dans le domaine de la christologie. Pierre Lombard distingue trois théories, opinions ou sentences sur l'incarnation, c'est-à-dire ce que nous appellerions la théologie de l'union hypostatique. La première théorie, théorie T1, ça sera la seule nuance de modernité de mon propos. T1, donc, la théorie dite de l'homme assumé, c'est politiquement correct, hein, ne vous inquiétez pas, l'homme assumé, c'est homo assumptus, cela veut dire simplement que un homme que je pourrais montrer du doigt, qu'on pouvait montrer du doigt à l'époque, est devenu Dieu, ou que Dieu est devenu cet homme. Non par nature, mais par grâce. T2, la théorie de la personne ou subsistance ou hypostase composée, selon laquelle le Christ fait homme est composé de deux natures, humaine et divine, et de trois substances, divinité, corps et âme, la personne du Verbe étant simple avant l'incarnation et composée après. T3, la théorie dite de l'habitus ou du vêtement, selon laquelle l'union de l'âme rationnelle et de la chair humaine au Verbe, en sa nature ou en sa personne, est extrinsèque ou accidentelle. Les deux, chair et âme, n'étant que le vêtement, l'indumentum, utilisé par le Verbe pour apparaître à la vue, se rendre visible aux yeux des mortels, et sic illa duo scilicet animam et carnem, verbo unita dicunt, ut non ex illis aliqua substantia vel persona componeretur, sed illis duobus vel ut indumento deus vestitur, ut mortalibus oculis appareret, qui rationem incarnationis secundum, habitum accipiunt. T3 est la théorie que, dans son plaidoyer, Eulogium, adressé au pape Alexandre III, Jean de Cornouailles, une des grandes sources de Gautier de Saint-Victor, attribue à Pierre Lombard lui-même qu'il aurait emprunté à ou hérité de Pierre Abélard, deux de nos labyrinthes. La deuxième théorie, deux natures, trois substances, étant attribuée par le même Jean de Cornouailles à Gilbert de la Porée, le troisième labyrinthe. Gautier a ses dossiers sur sa table de travail. Son but est clair, faire condamner par le pape les quatre labyrinthes, spécialement Pierre Lombard, auquel il s'attaque dans le livre premier, en reprenant largement un texte anonyme, l'Apologia de Verbo Incarnato. Le reproche est quasiment ad hominem. Lombard entraîne avec lui les saints pères dans des hérésies manifestes. Il mêle tout, il embrouille tout, il juxtapose tout pour que l'on ne puisse plus distinguer ce qui est catholique de ce qui ne l'est pas. D'où la méthode choisie par Gautier, dont le principe est énoncé au début du livre 2, pour contrer un ouvrage, les Sententiae Divinitatis, la cible du livre 2, des quatre labyrinthes, qu'il attribue à tort à Abélard, et qui est en fait un texte de l'école porétaine. Donc, cette méthode, c'est confronter les textes en donnant sous le vocable aéresis, l'énoncé des thèses incriminées, puis sous le terme catholica, la réponse de l'orthodoxie. Séparer le bon grain de l'ivraie, tel est l'objectif poursuivi dans tout l'ouvrage, y compris les nombreux aditamenta, le titre vient de l'éditeur moderne, contemporain, Palément Glorieux, inséré au fil du temps par l'auteur au beau milieu des manuscrits partiellement autographes de l'Arsenal numéro 379. C'est-à-dire qu'il faut que vous représentiez que l'édition imprimée aujourd'hui comporte à la fin des aditamenta priora et posteriora qui en fait étaient composés dans le manuscrit original de feuilles qu'ajoutait au fur et à mesure de la rédaction et de ses lectures Gautier, au beau milieu de ce qui est le livre 2. Donc c'est un désordre qui réellement n'est pas un effet de l'art. Pierre Lombard présente à parité T1, T2, T3, autrement dit les trois doctrines de l'incarnation. C'est le grand reproche de toute façon que Gautier va faire à Pierre Lombard. Elles n'ont cependant pas le même coefficient d'orthodoxie, ces trois doctrines. Selon Gautier, les tenants de T1 ne peuvent être dits ni hérétiques ni catholiques. Ceux de T2 sont manifestement catholiques et ceux de T3 sont sans doute possible hérétiques et blasphémateurs. Les reproches formulés par Gautier montrent à quel point l'esprit de la littérature sentencière lui est étranger. Alors que la différence entre ces doctrines saute aux yeux, dit-il, Pierre Lombard mobilise à égalité pour chacune d'elles les autorités des pères. Et il affecte de ne pas savoir lui-même quelle est la plus catholique. Sa méthode, pourrait-on dire, est celle de Ponce Pilate. Il prétend n'affirmer rien lui-même et laisse aux autres le soin d'aller plus au large et plus au fond pour trancher s'ils le peuvent. Et Gautier de citer à charge le passage de la distinction 7.3, paragraphe 3 de Pierre Lombard, qui explique que, avec beaucoup de soin, suivant les sentences des différents auteurs, il a traité de la question absque assertione et prejudicio, sans assertion ni préjugé, c'est-à-dire sans rien affirmer lui-même et sans préjuger de la meilleure sentence. Littérairement, le projet de Gautier est clair, s'opposer au genre sententiaire, qui permet, disputationis gratia, d'enrôler les pères sous des bannières hérétiques. Il s'agit de mettre les choses au point, de rétablir la vérité, de replacer chacun dans son camp véritable, rattacher les nouveaux hérétiques aux anciens, leur opposer la thèse catholique véritable, appuyée sur des sources catholiques éprouvées. Pierre Lombard soutient que, dans l'exposition de la difficile et profonde question posée au début de la distinction 6 du livre 3 et sa résolution, donc la question de l'incarnation, les sages se sont trouvés différés de beaucoup. C'est faux, répond Gautier. Ce ne sont pas les sages de Dieu qui diffèrent, mais ceux de ce monde. Autrement dit, les hérétiques et les grammairiens qui procèdent de manière puérile. Ce sont eux qui créent les problèmes. Gautier fait le tri en reprenant sa grille de lecture, donc ni catholique ni hérétique, manifestement catholique et sans aucun doute hérétique et blasphémateur. Il fait le tri en prenant sa grille de lecture et fixe la mire sur la troisième doctrine, qui est tout entière celle d'hérétiques condamnés, rappelle-t-il, dans les conciles. Tertia sententia, tota hereticorum est, etiam in conciliis damnatorum. Il y revient dans les aditamenta priora en l'attribuant clairement à Pierre Lombard. Gautier balaie la défense préventive de Pierre, l'argument du absque assertione et prejudicio tractavi, en rappelant que tout récemment, le pape Alexandre a nommément condamné les sentences de Pierre parce qu'avec ses arguments, ceux d'Arius, de Sabellius et des nouveaux hérétiques, elle a permis la recrudescence de l'erreur diabolique consistant à affirmer que le Christ n'est rien selon qu'il est homme. Error diabolicus. Ernest Renan a qualifié le blasphème des trois imposteurs de, je cite, « Satan caché au cœur du XIIIe siècle ». On pourrait dire que ce que les historiens appellent le nihilisme christologique est le Satan caché au cœur du XIIe siècle. Gautier le dit à sa manière, qui fait de la proposition « Christus secundum quod est homo non est aliquid » le Minotaure tapis dans le labyrinthe. L'acharnement de Gautier permet de mettre au jour un véritable réseau, un complexe de questions et de réponses qui donne une empreinte philosophique singulière à la christologie du XIIe siècle. Le point de départ est simple. Pour échapper au nestorianisme, certains nient que le Christ en tant qu'homme soit quelque chose. Gautier, qui crée apparemment le mot, les appelle « nihilianistes ». Nihilianiste, appellation dont l'historiographie moderne a tiré l'expression nihilisme christologique. Les nouveaux hérétiques sont tous nihilianistes. En disant cela, Gautier entend qu'ils nient la réalité de l'incarnation, qu'ils soutiennent la théorie du vêtement ou de l'habitus, T3, la troisième théorie exposée dans les sentences de Pierre Lombard, poussée à sa dernière extrémité. Face à cette affirmation, le premier travail de l'historien de la philosophie et de la théologie est d'identifier et de distinguer les complexes questions-réponses, de repérer et de regrouper les propositions litigieuses, les doctrines ou positions, et d'articuler le tout en autant de dispositifs que nécessaire. Un premier balayage devrait au minimum intégrer trois propositions. Christus secundum quod homo non est persona nec aliquid. Deuxième proposition. Eo quod Christus homo est non aliquid, sed potius aliquius modi, dici potest. Troisième proposition. Neque Deus et homo, neque homo persona, que Christus est, est tertia persona in Trinitate. Le Christ, selon qu'il est homme, n'est ni une personne, ni quelque chose. De cela que Christ est homme, on ne peut pas dire qu'il soit quelque chose, mais bien plutôt qu'il est d'une certaine façon, ou qu'il a une certaine manière d'être. Ni Dieu et l'homme, ni l'homme, personne, qui est le Christ, n'est la troisième personne dans la Trinité. J'ai bu dans ma vie, certes, mais j'ai surtout pu identifier une et toute honte bue, j'ai pu identifier une bonne vingtaine de protagonistes. Ah, les lapsus. Une bonne vingtaine de protagonistes avançant, discutant ou condamnant P1, P2 ou P3. Certains, comme Roland de Bologne, élève d'Abélard, longtemps confondu avec Roland Bandinelli, autrement dit le futur pape Alexandre III, certains, cumulant les hérésies, articulent même P2 et P3, c'est-à-dire que Roland de Bologne soutient les deux propositions. P2, P3. On ne trouve rien de tel chez Jean de Damas. Pourtant, Gautier fait de lui le grand docteur des Grecs et des nouveaux hérétiques, hérétique lui-même. L'hérésie de Jean Damascène est annoncée dans la table des matières du livre 4 des 4 contre les 4 labyrinthes de France, dans un enchaînement qui le rapproche d'Aristote, des dialecticiens et des philosophes. Le pauvre Gautier est effondré devant la nouvelle manière de théologiser, de faire de la théologie, qui, à force de dialectique, renvoie dos à dos catholiques et hérétiques. Combien d'arguments, s'écrie-t-il, Pierre de Poitiers, qui est peut-être le pire de tous, a-t-il emporté avec lui dans son labyrinthe? Combien de milliers? La conversion des propositions, comme celle des choses, est infinie. Une fois qu'il les a couvertes en l'occurrence, de mille différences, ces propositions, le dialecticien peut très facilement prouver ou nier le même, le vrai, le faux, le neutre. Les dialecticiens ont leurs règles. Si tu y crois, tu ne sauras plus rien. Si eis credis, tu ne sauras plus rien. Nescis, tu ne sais plus rien. Que le Christ est non homo, non homme, dans la mesure où il est seulement l'essence divine. Ou bien encore qu'il ne peut être aliquid quod non est pater, quelque chose que n'est pas le Père. Voilà le genre de formulation qui est soutenue dans l'école de Pierre Lombard. C'est cela que Gautier trouve monstrueux, et c'est sur ce terrain qu'il essaie d'attirer Damascène. Je me contenterai d'un exemple, un passage du De Fide Orthodoxa, livre 3, chapitre 3, paragraphe 6, que je vous donne dans les deux traductions du XIIe siècle, donc celle de Serbanus et celle de Burgundio. Sed in domino nostro Jesu Christo non est communem speciem accipere. Neque enim fuit, neque est, neque aliquando erit alius Christus, ex deitate et humanitate, et in deitate et humanitate, Deus perfectus, idem et homo perfectus. Dans notre Seigneur Christ Jésus, il n'y a pas, on ne peut pas, on ne doit pas, il ne faut pas, accipere communem speciem, accepter, recevoir une forme commune. Ce passage que Gautier évoque à 4 reprises est cité notamment dans le paragraphe 3 des Sentences 3, chapitre 1, visé déjà dans l'Eulogium de Jean de Cornouailles, où pour montrer que l'on n'entend pas la nature humaine dans le Christ, de la même façon qu'on dit que la nature de tous les hommes est une, Pierre Lombard cite la phrase de Jean de Damas, « Il n'y a pas lieu de recevoir une forme ou espèce commune dans le Seigneur Jésus-Christ, in domino nostro Jesu Christo, non est communem speciem accipere. » Dans tous les textes où il évoque cette phrase, Gautier lui ajoute, mais il faut la recevoir dans Pierre, qui est pris comme le nom d'un homme quelconque, autrement dit, si vous voulez, dans tel ou tel homme. C'est une première manipulation du texte, qui certes ne fait qu'expliciter la thèse dialectique sous-entendue, l'homonymie du terme « homme » appliqué à l'homme créé et au Christ, ce qui est peut-être un premier pas vers l'hérésie. Mais Gautier ajoute le second pas en précisant dans une de ses quatre références à Jean, parole du Damasène, il ne faut pas admettre une forme commune, à savoir l'homme dans le Christ, mais il faut l'admettre dans Pierre, car en Pierre, elle signifie la substance, dans le Christ, un habitus. Ce passage annoncé comme Werba Damasceni, parole du Damasène, ne contient d'authentique que la phrase sur la forme ou espèce commune. Le reste de la citation, Sed est eam accipere de Petro, n'est pas de Jean Damasène, et encore moins la partie de la phrase selon laquelle la forme d'homme ne serait qu'un habitus, un habit pour le Christ. Ce second ajout est caractéristique de l'école de Pierre Lombard. Gautier met donc le doigt sur une difficulté, ou pourquoi pas une hérésie, mais sa manière de travailler ajoute à la confusion générale. L'association du Damasène à la théorie de l'habitus est attestée en dehors du contrat quator labyrinthos francier, mais cela ne prouve pas qu'elle soit légitime. Je la repère toujours dans le cadre d'une argumentation. La summa breves dies hominis, anonyme, cite l'autorité de Damasène dans la version de Cerbanus et en tire la théorie de l'habitus. Mais, alors c'est la première citation, Damasène dit il ne faut pas prendre, accepter de forme commune du Christ, etc. Donc on arrive à ergo habitum. Mais retirées de leur contexte, ces trois lignes peuvent valoir indifféremment pour une démonstration ou pour une réfutation par l'absurde. Il en va de même de celle-ci, la deuxième citation, extraite d'une glose marginale aux gloses sur les sentences du pseudo-Pierre de Poitiers. Alio modo dicitur, homo de Christo, et alio modo de Petro, quia Christus secundum quod homo non est aliquid. Petrus secundum quod homo est aliquid, ergo non est concedendum, quod Christus et Petrus sint homines. Ce que l'on ne doit pas concéder, c'est donc que Christ et Pierre soient des hommes. Donc que A et B soient deux hommes. Seulement B le serait, Pierre. L'accumulation de citations hors contexte fait du contrat quator labyrinthos francier une machine à décerveler. La théorie de l'habitus a fait l'objet de nombreuses critiques. Certaines, comme l'Apologia ou l'Eulogium, constituent le sous-texte de Gautier. Mais Gautier ne les discute pas, ces théories. Il juxtapose, il accumule, il entasse. On serait tenté de dire façon puzzle. Mais le mot labyrinthe suffit. Le contrat quator labyrinthos francier est le seul vrai labyrinthe du XIIe siècle. Gautier ne donne aucun avis conceptuel sur les débats de son temps. Ses prises de position dans les notes autographes ne sont que des gloses dépréciatives, des exclamations, des injures. Mais, à sa manière, il a du flair. L'hérésie n'est pas dans le texte de Jean Damasène. Elle est dans le regard que Gautier pose sur l'usage qu'en font à ses yeux les deux Pierre, Pierre Lombard et Pierre de Poitiers. Tétroit est, on le sait, la thèse fondamentale de l'école de Pierre Lombard. L'autorité de Damasène est sa justification alléguée. Le dossier de Gautier annonce ce que l'on peut tirer aujourd'hui sur des bases scientifiques des travaux de Nicolaus Hering et de la magistrale synthèse de Lauge Nielsen, Theology and Philosophy in the 12th Century. Gautier ne laisse rien échapper. De la théorie du vêtement, théorie de l'habitus, à la théorie du non aliquid sed aliquius modi. Au chapitre 11 du livre 4 de son contrat quator labyrinthos francier, il épingle la question posée par Pierre de Poitiers, parce qu'elle se développe à ses yeux de manière toxique. Que prédique le mot homme dans Dieu s'est fait homme ou Dieu est homme? Une personne ou un accident? À peu de choses près, c'est choisir entre la peste et le choléra, n'est-ce pas, ou Charybde et Scylla. En effet, si on répond accident, eh bien, on devra soutenir que Dieu, non secundum quod est homo est aliquid, sed aliquidus modi, que Dieu est homme, veut dire qu'il a une certaine manière d'être, et non pas qu'il est quelque chose. Si on dit que homme désigne une personne, alors il est vrai que Dieu, selon qu'il est homme, est personne, c'est-à-dire substance, c'est-à-dire quelque chose, donc troisième personne de la Trinité. C'est le nestorianisme, il y a deux personnes, l'humaine et la divine, dans le Christ. Le texte qu'il cite disait, c'est bien pourquoi, selon diverses personnes, eh bien, il y a diverses façons de comprendre cette proposition. Alors, pour Gautier, il faudrait soit fuir, soit répliquer, soit analyser, soit essayer de comprendre. Mais comment ? Gautier n'a pas de fil d'Ariane. Il ne connaît pas la logique. Il n'a que des obsessions. Le nihilisme est son obsession. C'est lui qu'il traque jusque dans les hérésies attribuées à Jean de Damas. Pour ce faire, il lui suffit à coup de citations tronquées ou de gloses péremptoires de l'attirer dans l'orbe de la théorie du vêtement. C'est ce qu'il fait notamment dans les Aditamenta Priora, en ouvrant l'explosif dossier du Triduum Pascal, la question « Utrum in triduo mortis Christus fuerit homo » étant pour lui l'occasion d'intégrer Jean Damascène au bloc formé par Pierre Lombard et Pierre de Poitiers en lui attribuant indirectement le patronage du quod non. Ce qui est très drôle quand on connaît la suite de l'histoire. C'est ce qu'il fait encore en reprenant la question connexe, capitale pour l'histoire de la théologie, puisqu'elle fait intervenir l'ubiquité du Christ en enfer, à la droite de Dieu, sur la croix, un thème luthérien, et la distinction totus totum qui deviendra l'extra calvinisticum. Gautier ne comprend rien à la distinction totus, masculin, totum, neutre, qu'il aborde à plusieurs reprises. Comme d'habitude, son commentaire est de pure réaction. Ubi in toto veteri et novo testamento, uius modi deliramenta in veniuntur. Il ne comprend pas davantage la distinction christologique entre le masculin, représentatif de l'hypostase, et le neutre, représentatif de la nature, entre alius et aliud, entre quis et quid, dont Thomas d'Aquin rouvrira des décennies plus tard le dossier théorique en discutant la notion de Christ neutre. La manœuvre suprême de Gautier, qui se veut confrontation explicite de la théologie grecque et de la théologie latine, survient au folio 50VB du manuscrit de l'Arsenal. Elle a trait à la théologie trinitaire. Cette confrontation, proposée sous le titre prometteur Augustinus de Trinitate contra falsam Trinitatem Ioannis Damasceni, cette confrontation donc aurait pu donner lieu à une discussion épocale, un grand moment d'intelligence, disons, dans la Translatio Studiorum, faisant s'affronter sur le terrain supposé archétypique du XIIe siècle la question des universaux, les deux modèles, l'occidental et l'oriental, de la Trinité. Comme l'a montré Richard Cross, le problème de la Trinité croise en effet celui de l'universel, au sens où, sur une base commune, l'affirmation que l'essence divine est un objet numériquement singulier présent en totalité en chaque personne divine, le Père, le Fils, l'Esprit, tradition grecque et tradition latine s'opposent. La première tradition, représentée par Grégoire de Nyssa et Jean Damascène, fait de cet objet l'essence divine, un universel. La seconde, représentée par Augustin et Thomas d'Aquin, lui refuse ce statut pour la raison qu'un universel étant divisé dans les particuliers ne saurait être numériquement un. On a dans le Contraquator Labyrinthos Francier la donne initiale. On a la première main d'une partie complexe qui durera plusieurs siècles. Le temps pour la théologie grecque de se faire partiellement reconnaître et accepter en Europe. Là encore, Gautier de Saint-Victor a toutes les pièces du dossier. Mais l'accusateur n'est pas à la hauteur de la circonstance ni de l'enjeu. Il n'y aura pas de discussion épocale, il n'y aura qu'une opération de police bâclée. Sous le titre Augustinus de Trinitate contra Falsam Trinitatem Ioannis Damasceni, on a en fait une attaque groupée à la fois contre Pierre Lombard et Jean Damascène, Pierre Lombard restant la cible principale. Pierre Lombard soutient une thèse claire au livre 1, distinction 19, chapitre 9 de ses sentences, le rejet de trois hypothèses. Si les trois personnes font une seule essence divine, ce n'est ni selon la cause matérielle, ni selon un type de complexion, ni comme le genre est prédiqué des espèces, ou comme l'espèce est prédiquée des individus, c'est-à-dire le contenant de ce qu'il contient, le plus grand de choses plus petites. Puis il pose que certains exégètes catholiques de la Sainte Écriture ont rapporté dans leurs écrits, où ils semblent indiquer, semblent s'opposer, n'est-ce pas ? À cela semble s'opposer ce que certains exégètes catholiques de la Sainte Écriture ont rapporté dans leurs écrits, où ils semblent indiquer que l'essence divine est quelque chose de commun et d'universel comme l'espèce, tandis que les trois personnes sont trois êtres particuliers, trois individus qui diffèrent par le nombre. Il mentionne alors, Pierre Lombard, Jean de Damas, marque sa position dans le monde grec, rappelle que son traité sur la Trinité a été traduit à la demande du pape Eugène et cite deux arguments qui montrent clairement que la substance est universelle, tandis que l'hypostase est particulière, et que Dieu est une espèce ou forme, comme l'homme, que le Père, le Fils et l'Esprit Saint sont des individus, comme Pierre, Paul, et qu'ils diffèrent par le nombre, ce qui semble contredire la sentence précitée d'Augustin. Il y a donc deux arguments de Jean Damascène que je dois sauter pour raison de temps. Que dire face à ce conflit ? Quid ergo dicemus adhec ? Pierre Lombard répond qu'il faut s'en tenir fermement à la thèse d'Augustin, donc le rejet de l'essence divine universelle. Mais il ajoute que les propos de Jean de Damas peuvent s'entendre sainement, sane, si le lecteur est pieux et pénétrant. Il préférerait lui-même, je cite, pour leur explication, écouter les autres en silence, plutôt que donner en parlant l'occasion d'être dénigré par des hommes malveillants. Fin de citation. Il n'aura pas cette chance. Pierre justifie la différence entre les thèses d'Augustin et de Jean de Damas par la notion de transfert. Damascène transfère le langage de l'ontologie grecque à la théologie. Augustin ne le fait pas. La notion de translatio, de déplacement, ad theologica, fondée sur une similitudo, est probablement une des notions, en même temps qu'une des problématiques les plus caractéristiques, les plus centrales, les plus communément partagées par toutes les écoles du XIIe siècle, au croisement de la logique et de la théologie, un croisement déjà marqué au début du XIIe par la nécessité d'accorder Augustin, Boès, Denis, avec Aristote et Porphyre. Je vous renvoie sur ce point aux travaux de Luisa Valente, qui s'exprimera d'ailleurs aujourd'hui. Dans les années 1160-1170, Gautier est le témoin, via Pierre Lombard, de l'arrivée de Jean de Damas, des pères cappadociens et plus largement des pères grecs dans le vieux dispositif. Un témoin qui, en l'occurrence, aurait bien gagné à être assisté, car ce témoin ne voit pas le vrai problème trinitaire. Il ne discute pas philosophiquement des mérites comparés des deux théories, notamment du modèle de l'universel appliqué à la Trinité. Il ne regarde pas l'analyse qu'Augustin fait des thèses des Grecs, ni ne suit le scrupule du livre 7, chapitre 6, paragraphe 11 du De Trinitate d'Augustin, « Ne nobis videatur suffragari », ne pas sembler user de partialité en faveur des nôtres, c'est-à-dire nous autres les latins, en examinant les formulations des grecs. Il est partial et ne craint pas de l'être. Mais surtout, il ne voit pas la règle qui fonde la thèse d'Augustin, la regula augustini, et ne voit pas que cette règle, C'est tout ce dont a besoin Pierre Lombard pour déclarer saine, c'est-à-dire augustino-compatible, la position de Jean de Damas. Pour Pierre, en effet, la meilleure justification du premier argument de Pierre Lombard, de Jean Damasène, disons, en faveur de sa thèse, c'est que l'essentia divina dicta est universale, quia de omnibus personis simul et de singulis separatim dicitur, qui n'est rien d'autre que ce que j'appelle la règle d'Augustin. En effet, c'est une formulation que vous trouvez rigoureusement en toutes lettres dans le De Trinitate 5, 8, 9. Je parle sciemment de règles, car c'est bien ainsi que la présente Pierre de Poitiers en préface, pour ainsi dire, dès le chapitre 3 au premier des cinq livres de ses propres sentences pour expliquer le statut spécial de persona. Gautier ne va pas si loin. Il n'affronte pas le Minotaure dans le labyrinthe. Il n'entre pas en discussion logique argumentée. Il argumente ad hominem. Il s'en prend à Pierre Lombard pour dire qu'il a présenté les hérétiques comme des exégètes catholiques et qu'il a dévoyé complètement les thèses des vrais catholiques pour dissimuler leur incompatibilité avec celle de ses héros. Bref, il a subrepticement inversé les normes. Gautier perçoit la nouveauté du vocabulaire grec, mais il ne sait rien et ne peut rien deviner de l'opposition que Jean Damasène a construite entre le langage théorique des pères et celui des philosophes, ceux qu'il appelle les philosophes du dehors, oi exo philosophoi, à savoir les païens extérieurs à la communauté chrétienne. Gautier ignore l'opposition binaire, non philosophique, proprement théologique, tracée par Jean de Damas entre le bloc essence, nature, forme, espèce, d'une part, et le bloc particulier, individu, personne, hypostase, de l'autre. C'est cette doctrine exposée dans la Dialectica qui est appliquée dans le De Fide Orthodoxa et citée par bribes chez Pierre Lombard ou Pierre de Poitiers. C'est celle qui reste inaccessible à Gautier. Il suffit de faire la liste de ce qu'il rejette pour comprendre ce que l'arrivée des Grecs via Jean de Damas va changer dans la manière de penser philosophiquement dans la théologie à partir du XIIe siècle. Gautier est le témoin de la violence de l'acculturation que subit une partie du monde latin avec la seconde entrée de la théologie grecque. Je dis une partie, car précisément il y a les fameux labyrinthes. Chose paradoxale, Gautier se concentre sur Pierre Lombard et ne cible pas vraiment Gilbert de la Porée. En fait, il n'est pas dans ses radars, comme on dit aujourd'hui, non plus que l'école porétaine, Hugues de Honau et les autres qui vont chercher à Byzance de quoi argumenter les thèses de Gilbert de Poitiers attaquées par Bernard de Clairvaux. Gautier ne comprend pas les Grecs. Il déteste la théologie nouvelle, celle des dialecticiens, qui est en réalité l'accomplissement de la théologique gréco-latine, le couronnement de l'aetas boétiana, cher au père Chenu, l'acmé de ce que Sten Ebbesen a appelé la tradition logique européenne originaire. Par sa contribution théorique, Gautier ne méritait d'exercer aucune influence sur son temps. Il n'en a eu aucune. Mais il a inventé un mot, nihilisme, qui a fait sa gloire et imposé durablement son erreur de diagnostic. Ce temps a passé. Grâce aux travaux d'éminents éditeurs, historiens, philosophes, nos générations auront eu la chance de voir ces victimes sortir du labyrinthe. Il ne reste plus qu'à réintégrer les pères grecs à l'Europe, à laisser enfin Damasène s'installer à Paris. C'est fini.